Suivez Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Allianz et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour, les chiffres sont tout simplement vertigineux. En 2016, plus de 340 millions d'enfants et d'adolescents âgés de 5 à 19 ans étaient en surpoids ou obèses dans le monde. Et le continent africain n'échappe pas à la règle, loin de là, puisque le nombre d'enfants dans ce cas a augmenté de près de 50% depuis 2000, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Alors que surpoids et obésité ont longtemps été considérés comme des problèmes spécifiques aux pays du Nord, voilà qu'ils touchent désormais les pays du Sud, notamment en milieu urbain. À ce rythme, d'ici 2 ans, le nombre d'enfants obèses sera supérieur à celui des enfants dont le poids est insuffisant. Un renversement de tendance aussi rapide que spectaculaire qui n'est malheureusement pas sans risque pour la santé. Alors quelles sont les pathologies qui surviennent en raison du surpoids ou de l'obésité? Comment prévenir cette obésité des jeunes pour éviter les complications à l'âge adulte? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invitée, le docteur Clara Kipnis, endocrino-pédiatre au sein du service de pédiatrie générale au Grand Hôpital de l'Est francilien, site de Marne-la-Vallée, et du service d'endocrino-diabétologie pédiatrique à l'hôpital Robert-Debré à Paris. Nous serons également en ligne avec le docteur Colette Azan-Djemé, médecin nutritionniste au CHU de la mère et de l'enfant Lagune à Cotonou, pour parler d'obésité. Sur le continent africain. Et enfin, nous parlerons du Mexique avec Alix Sardi, correspondante de RFI sur place, puisque le pays détient le triste record du nombre d'enfants obèses ou en surpoids en raison de la malbouffe. Voilà pour le programme. Priorité Santé, c'est parti. Bienvenue à tous.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Clara Kipnis, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Alors, on va commencer avec les conséquences de la pandémie de Covid-19. Quel a été l'impact du confinement sur la prise en charge et le suivi de vos patients?
Alors, effectivement, dans la cohorte qu'on suit, on a remarqué qu'il y avait dans la grande majorité des cas une augmentation de la prise de poids due à une diminution de l'activité physique très nette pendant le confinement et également parfois à des grignotages plus importants étant donné que les enfants étaient parfois inactifs à la maison et pouvaient parfois s'ennuyer même s'il y avait l'école en parallèle à la maison, en tout cas en France.
Est-ce que, alors on le sait, les taux d'obésité chez les enfants et les adolescents du monde entier sont passés de moins de 1% en 75 à près de 6% chez les filles et près de 8% chez les garçons en 2016. Faut-il s'en inquiéter? Ce boom est énorme.
Oui, tout à fait. On parle d'épidémie. Donc, effectivement, on s'inquiète de ces chiffres. Donc, à noter que cette épidémie a eu lieu dans les dernières dizaines d'années, mais que depuis quelques années, tout de même, les chiffres se sont stabilisés, en tout cas en France. L'épidémie est plutôt stabilisée ces dernières années. Mais effectivement, c'est quelque chose d'inquiétant.
Selon vous, qu'est-ce que cela traduit de nos sociétés?
Alors, cela traduit probablement un environnement qui est de plus en plus ce qu'on appelle obésogène, c'est-à-dire plus prédisposant à l'obésité, avec une alimentation hypercalorique probablement beaucoup plus disponible qu'il y a plusieurs dizaines d'années.
Est-ce que les garçons sont plus touchés? Je disais 8% chez les garçons, 6% chez les filles, mais de façon générale, ça concerne plus les garçons, l'obésité?
Alors, c'est des pourcentages qui restent quand même assez proches l'un de l'autre. Donc, oui, effectivement, il y a une petite augmentation chez les garçons, mais nous, on voit vraiment les deux sexes. Hein.
Ouais. Alors, on parle de surpoids et d'obésité. Concrètement, comment différencier les deux?
Alors, en fait, il s'agit de courbes de croissance. Donc, en tout cas, en France, les enfants ont tous un carnet de santé et à la fin duquel il y a des courbes de croissance de poids et de taille. Et donc, à chaque consultation, le médecin note le poids et la taille sur la courbe. Et donc, pour l'obésité et le surpoids, c'est la même chose. On calcule l'indice de masse corporelle, l'IMC.
Le fameux IMC, voilà.
Voilà, le poids divisé par la taille au carré. Et donc, de même que pour le poids et pour la taille, on a des courbes d'indice de masse corporelle. Et donc, quand on est entre le 3e et le 97e percentile, donc ce qui représente à peu près 95% de la population, on dit qu'on est dans la courbe, donc en équilibre staturo-pondéral. Quand on est en dessous du 3e percentile, on dit qu'on est en insuffisance pondérale. Et quand on est au-dessus du 97e percentile, on dit qu'on est en surpoids, donc en excès pondéral. Et donc ça, ça correspond à l'équivalent adulte d'un IMC, d'un indice de masse corporelle à 25 kg par mètre carré, donc le surpoids, et l'obésité, c'est encore un petit peu au-dessus, donc un équivalent adulte au-dessus de 30 kg par mètre carré. Et ensuite, l'obésité sévère au-dessus de 35 kg par mètre carré et l'obésité massive ou morbide au-dessus de 40 kg par mètre carré d'équivalent adulte. Donc, on a vraiment des courbes qui évoluent en fonction du sexe et de l'âge de l'enfant. Les normes évoluent en fonction de l'âge et du sexe de l'enfant et c'est grâce à ces courbes qu'on peut définir le surpoids et ensuite l'obésité.
Généralement, à quel âge surviennent ces problèmes de poids? Ce qu'il y a, c'est plutôt dans l'adolescence, plutôt très jeune.
Alors c'est très variable. Nous après on a un biais de recrutement entre guillemets, étant donné que par exemple à Robert Debré en centre hospitalo-universitaire, on voit essentiellement des enfants qui sont atteints d'obésité très sévère ou très précoce, donc qui peuvent apparaître dans les premières années de vie. Oui, ça peut arriver. Alors quand c'est dans les premières années de vie, ça oriente plus vers une maladie sous-jacente. Mais il n'y a pas vraiment d'âge précis d'apparition de l'obésité. Ça dépend vraiment de chaque enfant, de chaque famille.
Est-ce qu'un enfant obèse est condamné à devenir un adulte obèse?
Alors non. Chez les enfants prépubères qui sont obèses, donc c'est-à-dire avant la puberté, il y aura environ 20 à 50% des enfants qui vont rester obèses à l'âge adulte. Et par contre, chez les adolescents, pubères, donc une fois qu'ils ont fait leur puberté, lorsqu'ils sont obèses à l'adolescence en étant pubères, il y en a à peu près 50 à 70% qui vont rester obèses à l'âge adulte. Donc ce n'est pas systématique de rester obèse à l'âge adulte lorsqu'on est obèse dans l'enfance.
Bon, bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Quelles sont les principales causes du surpoids et de l'obésité? On pense évidemment à la malbouffe, au manque d'activité physique, mais il n'y a pas que ça finalement.
Alors, c'est effectivement dans l'immense majorité des cas, c'est la cause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie sous-jacente. C'est ce qu'on appelle l'obésité commune. Donc, l'obésité commune, c'est finalement qu'on hérite probablement d'un bagage génétique, de même qu'on est blond, qu'on est brun, qu'on a les yeux bleus, qu'on a les yeux bruns, en fonction des bagages génétiques dont on a hérité. Et ben, on pense que pour le poids, il y a aussi pas mal de gènes qui sont impliqués dans la prise de poids. Et donc, c'est pas forcément de notre faute ou de la faute de nos parents. Donc, il faut vraiment déculpabiliser les parents par rapport à ça. Mais on hérite probablement d'un bagage génétique prédisposant à l'obésité et avec un environnement favorable, c'est-à-dire, comme vous dites, la malbouffe, une alimentation hypercalorique, une faible dépense énergétique. Et donc ça, c'est la principale cause de l'obésité, c'est l'obésité commune, donc il n'y a pas de maladie sous-jacente. Et ensuite, de façon très rare, et c'est notre rôle en tant qu'endocrinopédiatre, il peut y avoir des maladies sous-jacentes, donc des maladies génétiques, des maladies syndromiques, des maladies cérébrales, donc hypothalamiques, ou encore des maladies hormonales.
Ah, les problèmes hormonaux, c'est un gros problème aussi, ça, hein, qui favorise l'obésité?
Alors, les problèmes hormonaux, donc c'est essentiellement l'excès de cortisol et l'hypothyroïdie, donc l'insuffisance en hormones thyroïdiennes. C'est quand même très rare que ça donne des obésités, mais nous, on les cherche quasiment systématiquement.
Alors, docteur, notre reporter Charlie Dupieux a rencontré Noah, 12 ans, et son frère Evan, 11 ans. Noah a été en surpoids pendant 3 ans, après avoir pris une vingtaine de kilos en un an. Quant à Evan, eh bien, il est toujours en zone dite haute de surpoids. Poussé par leurs parents, eh bien, les deux frères consultent un nutritionniste depuis 2 ans.
Avant, tous les mardis avec toute la famille, mon frère, ma maman. Le soir, on avait l'habitude, après un cours, d'aller au McDo tous les mardis. Je mangeais un petit peu n'importe quoi.
Qu'est-ce que tu mangeais, par exemple?
On mangeait beaucoup de pâtes, des pizzas, gâteaux, apéritifs, beaucoup de soda, les chips, des bonbons. On mangeait un peu n'importe quoi.
Donc avec le médecin nutritionniste qui vous suit, toi et ton frère, tu as mis en place un nouveau régime alimentaire?
En premier, il disait légumes à chaque repas. Si on a un féculent, de ne pas prendre de fromage. Alors, les épinards, j'en mange très souvent. Des aubergines, des concombres, des courgettes. Maintenant, on mange plus de légumes que de féculents.
Combien de poids tu as pu perdre avec tout ça?
Bien 10 kilos, un truc comme ça.
Et comment tu décrirais ton corps aujourd'hui? Comment tu le trouves?
Je trouve que j'ai un peu minci. Parce que avant, même sur les photos de classe, je trouvais que j'étais ça se voyait que j'étais un petit peu en surpoids. Mais maintenant, quand je regarde les photos de classe maintenant et avant, j'ai une grande différence par rapport à mon poids.
Evan, toi tu as 11 ans, tu es donc le petit frère de Noah, et toi en ce moment tu as un problème de surpoids, est-ce que tu peux nous en parler?
Ça a commencé à partir de l'âge de 8 ans. Je commence à prendre de la taille au ventre. Je fais 1,59 et je fais 62 kilos.
Toi tu as vu l'exemple de ton frère qui a connu la même chose que toi et qui a minci, comment tu vois ça?
J'aimerais avoir le même résultat que lui pour pas que quand je serai grand, que j'ai pris trop de poids et que je puisse plus en perdre.
Bonjour Émilie, vous êtes la maman de Noah et de Evan qu'on vient d'entendre. Comment vous avez compris à un moment qu'ils étaient tous les deux en surpoids?
Alors, ça a commencé que les garçons ont commencé à avoir des petites poignées d'amour, des petits bourrelets, et on voyait que leurs petits kilos d'enfants ne partaient pas en grandissant. Et on a préféré prendre justement les devants avant que ça s'aggrave à cause de notre situation. On voulait pas qu'ils deviennent justement comme nous, parce que moi je suis quand même en obésité sévère. En peu de temps, je me suis retrouvée à avoir pris 50 kilos en l'espace de quelques années, quoi. Et là, je suis à 110 kilos. Mon mari a été aussi en obésité. Là, lui, ça va mieux. Il commence à rentrer plus dans les clous. Mais c'est vrai que c'était une crainte de, je voulais pas qu'il vive ce que moi j'avais pu vivre pendant mon adolescence, justement. Notre docteur nous a expliqué qu'on était une famille d'obélix. Donc, mon mari a des obélix dans sa famille. Moi, j'ai des obélix dans ma famille. Donc, malheureusement, nos enfants sont nés avec les deux gènes obélix. Et toute leur vie, ils vont devoir quand même faire attention à leurs propres enfants. Donc, on voulait que, jeunes, ils sachent les bonnes habitudes alimentaires que nous, on ne pouvait pas leur donner jusque-là.
Des propos recueillis par Charlie Dupiau. J'aimerais avoir une réaction, docteur Clara Kipnis.
Oui, alors c'est vrai que la maman décrit très bien. Hein, c'est très souvent, donc c'est probablement donc une obésité commune hein, qu'ont ces enfants. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. On
Ces
hérite
fameux
d'un
gènes obélix,
bagage.
voilà.
Voilà, on est. Bon, moi, j'appelle pas ça les gènes obélix, mais peu importe la manière dont on les appelle. Mais en gros, on hérite d'un bagage génétique. Donc c'est de la faute de personne, ni des parents, ni des enfants. Mais voilà, un bagage génétique qui fait qu'on est prédisposé à prendre plus de poids dans un environnement qui est aussi favorable à la prise de poids. Et donc, chez ces personnes-là, il faut, dès le plus jeune âge, leur apprendre à manger normalement. Donc, surtout, on ne fait jamais de régime restrictif chez les enfants, d'accord? Jamais de régime hypocalorique, puisque ce sont des êtres en croissance et qu'ils ont besoin d'avoir suffisamment d'énergie pour grandir. Mais par contre, on leur apprend tout simplement à manger normalement, à manger équilibré.
En fait, il faut juste, voilà, grandir, s'émincir. Il ne faut pas prendre de poids, mais ne pas faire de régime. C'est ce que vous disiez.
Exactement. Alors, l'objectif de la prise en charge, c'est surtout pas de perdre du poids chez les enfants, mais c'est seulement de stabiliser le poids pendant quelques années ou quelques mois en fonction de la courbe. Et comme ils grandissent, et bah forcément, mécaniquement, ils vont s'amincir parce que l'indice de masse corporelle, c'est le poids divisé par la taille au carré. Donc, si le poids reste stable mais que la taille augmente, et ben forcément, l'indice de masse corporelle va diminuer un petit peu. Donc, l'objectif, c'est surtout pas de perdre de poids et surtout pas de régime restrictif chez les enfants. Il faut une alimentation normocalorique, donc normale, équilibrée.
Alors, comme vous l'avez dit, hein, il ne s'agit pas de culpabiliser les parents, de stigmatiser, de faire de la grossophobie, comme on dit aujourd'hui.
Tout
On
à
fait
fait.
juste de la sensibilisation autour d'un problème de santé publique, car c'est bien la santé hein, qui est en jeu. Quelles sont justement les complications dues à l'obésité? Elles sont multiples hein, dans tous les domaines.
Alors, elles sont effectivement multiples. Les principales complications, donc c'est des complications cardiovasculaires qui persistent à l'âge adulte, donc hypertension artérielle et augmentation du risque cardiovasculaire. Ensuite, on a des complications endocriniennes, donc résistance à l'insuline, intolérance au glucose et diabète de type 2.
Juste, pardon, comment on l'explique ça, la résistance à l'insuline?
Alors, donc ça c'est mécanique. Hein, donc, quand on prend beaucoup de poids, l'insuline va en fait agir plus faiblement au niveau des cellules, et donc c'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et ça, c'est le lit en fait du diabète. Et donc, on peut voir des diabètes de type 2 également à l'âge pédiatrique. Donc, c'est pas seulement les personnes âgées ou les adultes qui font des diabètes. Nous, on voit des adolescents qui font des diabètes de type 2 en lien avec l'obésité, et bien sûr parce qu'ils ont des antécédents familiaux de diabète de type 2 en général.
Bien sûr. Alors hier, on faisait une émission sur les troubles du sommeil et j'ai cru comprendre justement qu'un surpoids, une obésité pouvait favoriser justement ces troubles du sommeil ou d'apnée du sommeil. C'est le cas?
Tout à fait. Donc, en fait, il y a un peu une dimension bidirectionnelle, c'est-à-dire que d'une part, les troubles du sommeil vont entraîner de l'obésité, puisque quand on dort mal, souvent on a tendance à manger plus, que ça soit la nuit ou la journée, et vice versa, quand on a des problèmes d'obésité, on va avoir souvent des problèmes d'apnée du sommeil, le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, il y a vraiment cette dimension bidirectionnelle entre les troubles du sommeil et l'obésité. Et puis aussi, l'obésité va favoriser l'asthme, hein, ça augmente de 50% l'asthme. L'obésité va aussi favoriser l'insuffisance rénale, la stéatose hépatique, c'est-à-dire une atteinte au niveau du foie, les douleurs articulaires, l'épiphyséolyse fémorale supérieure, donc qui donne des boiteries et qui est une urgence chirurgicale. Et puis des complications parfois psychologiques, un retentissement psychologique qui peut être important, qui est très variable d'une personne à l'autre.
Alors ça, bien sûr, on va y revenir, mais juste, j'ai lu que les garçons pouvaient avoir des douleurs à la hanche en raison du surpoids, comment on l'explique ?
Donc c'est ça exactement, c'est l'épiphyséolyse fémorale supérieure qui est une urgence. Donc quand on boite, effectivement, c'est plus souvent chez les garçons que chez les filles, et c'est donc chez des personnes obèses. Et donc, en fait, c'est un petit glissement de la tête fémorale qui est une urgence.
Alors, venons-en justement aux conséquences psychologiques que vous avez commencé à aborder. On sait, les enfants peuvent être méchants entre eux, hein, les moqueries à certains âges peuvent blesser. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vous, vos patients? Qu'est-ce qui ressort de tout ça sur ces blessures psychologiques?
Alors, bah, bien sûr, c'est très variable, hein, d'un enfant à l'autre. Il y a des enfants qui le vivent très bien et heureusement, et d'autres enfants pour qui c'est une grande souffrance psychologique. Alors, ils le disent pas forcément spontanément. Parfois, c'est des choses qu'ils gardent vraiment pour eux. Et il faut un peu leur sortir les vers du nez, entre guillemets. C'est très variable, mais il peut y avoir une très grande souffrance, des moqueries de la part des pères qui sont effectivement à cet âge-là, ils sont très très, ils peuvent être très blessants. Donc,
mais vous arrivez à le percevoir, ça, parce que les enfants peuvent ne pas le verbaliser, ne pas le signaler. Vous arrivez à sentir cette souffrance?
Bah, on essaye de leur poser les questions, d'aborder un petit peu le sujet, mais effectivement, si on n'aborde pas forcément le sujet de nous-mêmes, en général, ils vont pas nous en parler d'eux-mêmes. Hein. C'est souvent quelque chose qu'ils vont garder pour eux, qu'ils vont refouler, et c'est pour ça qu'on peut proposer un soutien psychologique si besoin. C'est pas systématique, mais c'est de façon adaptée à chaque enfant. Si on voit qu'il y a une souffrance psychologique importante, on peut tout à fait proposer une rencontre avec les psychologues, un suivi psychologique.
Direction le Mexique, où l'obésité est un véritable fléau, en particulier pour les enfants. Alix Hardy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RFI au Mexique. Le Mexique qui est champion toute catégorie de l'obésité infantile au coude à coude avec les États-Unis. Plus d'un tiers des enfants souffrent de surpoids ou d'obésité, car eh bien, depuis une vingtaine d'années, Alix, la culture de la malbouffe s'est imposée dans le pays.
Oui, car ici les chiffres montrent que les enfants souffrent de plus en plus de maladies initialement observées chez l'adulte. C'est le cas du diabète de type 2 et de l'hypertension. Au Mexique, les scientifiques parlent même d'une triple épidémie. Avec l'obésité se développe donc le diabète, mais aussi les maladies cardiovasculaires. Ce sont d'ailleurs les deux principales causes de mortalité dans le pays. À tel point qu'en 2016, le Mexique a déclaré une sorte d'état d'urgence épidémiologique pour tenter de freiner la progression fulgurante du diabète et de l'obésité au sein de la population. En 1980, 14 000 personnes sont décédées du diabète. En 2018, c'est plus de 100 000. C'est un fléau qui d'ailleurs pose question en période de coronavirus quand on sait que ces maladies sont des facteurs aggravants pour les personnes qui contractent la Covid-19. Au Mexique, 70% des personnes décédées du coronavirus souffraient d'obésité, d'hypertension ou de diabète.
Vu l'ampleur du phénomène, on peut parler d'un véritable problème de santé publique, Alix ?
Oui, et pourtant, s'il y a un pays qui dispose d'une gastronomie riche et variée, c'est bien le Mexique. On y mange extrêmement bien grâce aux produits stars de la région, comme le haricot noir et le maïs, dont il existe originellement plus d'une cinquantaine de variétés de toutes les couleurs. Mais ces bonnes pratiques tirées de l'agriculture ont été, comme dans beaucoup de pays, mises en échec ces dernières années. Au Mexique, on n'hésite pas à faire le lien entre cette irruption de produits pleins de calories vides et la signature du traité de libre-échange en Amérique du Nord, l'ALENA, il y a 26 ans. Alors depuis, les petits agriculteurs mexicains, ils ont perdu en compétitivité face aux mastodontes américains qui arrosent le marché de produits de moindre qualité. Le Mexique exporte par exemple son maïs vers les États-Unis pendant que son voisin du Nord lui envoie du maïs OGM sans valeur nutritive. C'est un peu comme si le Mexique avait perdu une partie de ce qui fait son identité. Le maïs est originaire d'ici, mais les Mexicains n'en consomment qu'une version dégradée. Alors tout ça a fomenté une véritable culture de la malbouffe, donc très attrayante aux yeux des petits Mexicains, car à chaque coin de rue ici, on trouve des épiceries qui vendent des boissons sucrées et des snacks dans de jolis emballages brillants. Et en termes de nourriture industrielle, c'est vraiment plusieurs crans au-dessus de ce qu'on connaît en France.
Alix, le Mexique tente de reprendre le contrôle sur cette épidémie.
Oui, ou du moins d'en limiter l'ampleur. À défaut de pouvoir stopper le flot de malbouffe qui se déverse dans le pays, les autorités tentent d'agir à la marge. En 2014, une taxe a été instaurée sur les sodas, car le Mexique est le plus gros consommateur au monde de boissons sucrées. 6 ans plus tard, on sait qu'elle a réduit la consommation de ces sodas, mais son efficacité reste débattue, car la réduction reste modeste par rapport au but recherché, qui est de réduire significativement le nombre de calories consommées. En octobre de cette année, on attend un nouvel étiquetage des aliments, censé rendre beaucoup plus évident si un produit est trop gras, trop salé ou trop sucré. Une mesure qui a eu des effets positifs déjà au Chili et au Pérou. Le Mexique essaye par ailleurs de limiter la publicité de ce type d'aliments destinés aux enfants. Des enfants qui passent d'ailleurs beaucoup trop de temps devant la télé, disent les études scientifiques. Alors c'est le cas dans beaucoup de pays, mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'une étude de la Fondation mexicaine pour la santé a relevé qu'indirectement, la violence qui règne dans le pays fomentait un mode de vie beaucoup moins actif pour les enfants, car ils sont plus facilement privés d'activités récréatives dans l'espace public par leurs parents, de peur qu'il leur arrive quelque chose, une ultra-sécurisation qui contribue en fait à la sédentarisation. Tout ça montre la complexité du problème de l'obésité infantile au Mexique, qui est loin de ne dépendre que de la volonté individuelle des parents. Et donc, la difficulté de résoudre, ou du moins de maîtriser définitivement ce phénomène.
Alix Sardi, correspondante de RFI au Mexique, merci à vous et bonne journée. Docteur Clara Kipnis, j'imagine que vous étiez au courant de la situation au Mexique, mais c'est vrai que ça fait froid dans le dos quand même.
Alors, nous, on a eu les situations à peu près similaires, bon, pas forcément les mêmes chiffres, mais une augmentation très franche de la prévalence du surpoids et de l'obésité il y a quelques années en France, qui depuis s'est stabilisée, mais effectivement avec un environnement très obésogène, donc une alimentation hypercalorique très disponible, qui augmente l'obésité.
Très disponible et surtout à faible coût, ce qui incite les populations à les acheter, quoi.
Tout à fait. Ouais, c'est pour ça que le milieu socio-économique est un facteur de risque pour le surpoids et l'obésité.
Plus on est pauvre, plus on risque de tomber dans l'obésité, c'est ça ?
Alors oui, c'est ce qui a été démontré. On pense aussi à l'inverse qu'il peut y avoir une stigmatisation. Donc plus on est obèse et plus on peut être stigmatisé. Donc il y a un peu une double dimension.
Inversement, le Japon est souvent cité en exemple dans la lutte contre l'obésité infantile. C'est le modèle à suivre, le Japon ?
Alors moi, je connais pas bien le modèle japonais. En tout cas,
en fait, les parents préparent à manger à leurs enfants pour l'école. Apparemment, c'est ça le secret.
D'accord. Alors, encore faut-il que les parents préparent des choses relativement équilibrées. Donc, ce qu'il faut surtout bien retenir, c'est qu'il n'y a pas d'interdit. D'accord, il ne faut pas interdire les aliments plaisir, les aliments qui sont plus caloriques. C'est juste qu'il faut essayer de diminuer un petit peu la fréquence de ces aliments-là. Et surtout, on est de plus en plus à essayer de faire du fait maison. Donc là, c'est vrai que pendant le confinement, c'est ce qui a été un petit peu à la mode. Mais le fait maison, ça permet de limiter souvent les apports en graisse, en sel, en sucre, etc. En tout cas, de savoir exactement ce qu'on met comme composition pour chaque aliment.
Allez, on passe à la prise en charge. Vous l'avez dit, pour les jeunes, on ne parle pas de régime. Et justement, comment se passe cette prise en charge ?
Alors, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient et bien sûr de ses parents, puisque en pédiatrie, ça passe toujours par les parents, puisque comme on l'a vu, hein, c'est les parents qui peuvent faire à manger ou les parents qui vont acheter à manger. Donc, bien sûr, c'est très important de d'impliquer toute la famille, tout le foyer dans cette prise en charge. Donc, il n'y a pas de traitement médicamenteux pour tout ce qui est obésité commune, donc l'immense majorité des cas. On n'a pas de traitement médicamenteux. Par contre, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire à long terme, sur plusieurs années, réapprendre à manger équilibré.
Est-ce que c'est difficile justement de réapprendre à manger équilibré? On l'a entendu tout à l'heure avec le témoignage de Charlie Dupiot. Bon, les jeunes qui sont obligés de manger des légumes alors qu'ils n'aiment pas tellement ça, c'est compliqué de leur réapprendre ça, ces nouvelles saveurs finalement?
Alors après, c'est justement le rôle du diététicien nutritionniste d'essayer de donner des conseils adaptés, personnalisés à chaque famille, à chaque enfant, pour essayer de faire en sorte que ça reste un plaisir et que ça soit pas, qu'il n'y ait pas de frustration, pas d'interdit. Mais les légumes, on peut les manger, on n'est pas obligé de manger que des légumes vapeur, sans beurre et sans sel. On peut essayer de trouver des manières qui font plaisir pour l'alimentation. Donc il y a cette partie diététique qui est importante, et puis bien sûr la partie activité physique, donc essayer de motiver les jeunes à reprendre une activité physique. Donc on dit qu'il faut au moins 1 heure par jour d'activité physique modérée à intense, donc c'est l'équivalent de la marche rapide. Donc après, ça peut être du vélo, de la natation, des sports collectifs, mais quelque chose qui fait plaisir à l'enfant.
Alors, vous parliez du rôle des parents. Il y a une étude qui a été présentée au 26e congrès européen sur l'obésité à Glasgow qui a démontré qu'environ un parent sur deux sous-estimait la sévérité du surpoids de son enfant et que plus d'un tiers des jeunes concernés sont également dans le déni. Est-ce que c'est un frein, ça, à la prise en charge, justement?
Alors c'est vrai que on peut voir parfois des parents qui sont dans le déni et du coup oui, je pense que c'est un frein à la prise en charge. Donc la prise en charge, elle est vraiment multidisciplinaire, elle est aussi psychologique, diététique, et il faut qu'on essaye de faire comprendre à la famille les enjeux. Donc l'enjeu, c'est, comme on a dit, surtout ne pas culpabiliser, ne pas stigmatiser. Le poids en soi n'est pas un objectif, mais c'est vraiment l'enjeu, c'est de limiter les complications dues à l'obésité.
Est-ce que les jeunes ont recours à la chirurgie? Je pense à la pose d'anneaux ou rétrécissement de l'estomac. Est-ce que ça, c'est à préconiser pour des jeunes ou pas?
Alors, c'est rare, mais c'est possible, et ça a été encadré justement il y a quelques années par la Haute Autorité de Santé pour qu'il n'y ait pas de dérive. Donc, c'est quelque chose qui est possible globalement après l'âge de 14-15 ans. Donc, il y a des critères vraiment très stricts à respecter pour proposer cette chirurgie bariatrique. Donc, c'est anneaux, bypass ou sleeve gastrectomie. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs techniques. Et c'est quelque chose qui est proposé de façon extrêmement limitée. C'est absolument pas systématique et vraiment très encadré avec un parcours de soins de minimum 1 an avant la chirurgie et plusieurs années après la chirurgie, avec des réunions de concertation pluridisciplinaire où on pose l'indication ou non de cette chirurgie avec des médecins, des diététiciennes, des psychologues. Et il faut vraiment que le jeune ait quasiment terminé sa puberté, minimum 15 ans, qu'il ait une obésité avec un équivalent adulte au-dessus de 40 kg par mètre carré, donc une obésité morbide, ou une obésité sévère, donc au-dessus de 35 kg par mètre carré d'équivalent adulte, avec des complications type diabète, syndrome d'apnée du sommeil, etc. Donc c'est vraiment très très encadré il faut pas que ça se fasse n'importe comment, parce qu'après il y a aussi besoin d'une supplémentation vitaminique, d'une contraception chez les femmes pendant 2 ans suite à la chirurgie. Donc c'est vraiment quelque chose de très très limité chez les enfants.
Alors, ouais, vous l'avez dit, la prise en charge se fait sur le long terme, il ne faut donc pas baisser les bras, évidemment. Généralement, en combien de temps est-ce qu'on peut espérer avoir quelques résultats? En 2 ans, on entendait un jeune tout à l'heure qui avait perdu une dizaine de kilos. Voilà.
Alors, les résultats, ils peuvent se voir en quelques mois. Moi, souvent, après la première consultation, très souvent, j'ai eu des patients qui ont une stabilisation de l'indice de masse corporelle. Donc, c'est vraiment l'objectif, stabilisation du poids et diminution de la pente de l'indice de masse corporelle. Mais voilà, il faut savoir que c'est vraiment à long terme, voire quasiment à vie, puisqu'on a dit que c'était probablement un petit peu inscrit dans nos gènes. Et du coup, moi, ce que je leur explique, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, parce que dès qu'on relâche les efforts, eh ben, la pente de l'IMC remonte et on revient comme avant. Donc, c'est vraiment, les effets peuvent se voir assez rapidement.
Hein. Et elles sont fréquentes, les rechutes, justement? Parce que c'est compliqué, vu que c'est à vie.
Alors, bah, oui.
Par exemple, pendant les vacances, on peut se relâcher.
Ouais. Alors après, il faut pas que ce soit des frustrations. Il faut pas que ce soit un régime temporaire. Il faut pas qu'il y ait des frustrations. Il faut qu'il y ait quand même toujours des plaisirs de temps en temps. Et c'est ça qui fait qu'on va réussir sur le long terme. Mais effectivement, oui, les rechutes sont assez fréquentes. Oui.
Est-ce que les hospitalisations sont elles aussi fréquentes ou pas? Vous en avez, vous, en hospitalisation des patients, des jeunes patients?
Oui, tout à fait. Alors nous, on voit les enfants donc en consultation. Ensuite, si c'est une obésité donc très sévère avec un équivalent adulte au-dessus de 40 kg par mètre carré, on les hospitalise systématiquement pour rechercher toutes les complications, vérifier qu'il n'y a pas de maladie sous-jacente et puis surtout commencer l'éducation thérapeutique du patient et de sa famille avec des ateliers diététiques, etc. Donc c'est vraiment les trois volets de la prise en charge, hein. Dépister une maladie sous-jacente, dépister les complications et accompagner l'enfant et sa famille dans la prise en charge. Donc oui, on hospitalise parfois des enfants, mais c'est vraiment des courts séjours, hein, de quelques jours, 3 à 5 jours.
Docteur Clara Kipnis, vous restez avec nous, on marque une petite pause en intermède musical et puis on se retrouve juste après. Oui. Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de l'obésité infantile avec nos invités. Le docteur Clara Kipnis, endocrinopédiatre au sein du service de pédiatrie générale au Grand Hôpital de l'Est francilien, site de Marne-la-Vallée, et du service d'endocrinodiabétologie pédiatrique à l'hôpital Robert-Debré à Paris. Et le docteur Colette Azangemé qui nous rejoint. Bonjour docteur Azangemé.
Bonjour monsieur.
Vous êtes médecin nutritionniste au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune à Cotonou, enseignante-chercheur à l'Institut régional de santé publique à Ouida, au Bénin donc. Alors autrefois, le surpoids et l'obésité étaient considérés comme des problèmes spécifiques au pays du Nord. Aujourd'hui, on le sait, bien, ils touchent également les pays du Sud. En Afrique, le nombre d'enfants en surpoids ou obèses a augmenté de près de 50% depuis 2000. Est-ce que ces chiffres vous surprennent? Est-ce que c'était prévisible selon vous?
Ben non, ces chiffres ne sont pas du tout surprenants. On peut les prévoir à cause de la transition nutritionnelle. Et donc, le passage d'une alimentation traditionnelle sur la base des fruits, des légumes et autres à une alimentation obésogène occidentalisée avec des céréales raffinées, beaucoup de matières grasses, et des aliments de restauration rapide, tout ça fait que l'obésité chez les enfants est prévisible. D'ailleurs, c'est le même phénomène qui s'observe chez les adultes aussi.
Mmh. Elle est fréquente? Quelle est la prévalence au Bénin?
En fait, elle n'est pas si fréquente que ça chez les enfants. La prévalence au Bénin est actuellement de 2%, donc bien inférieure aux 5% qui constitue un problème de santé publique tel que défini par l'OMS. Donc, ce n'est pas un problème si grave, mais ce en quoi c'est difficile, c'est la stigmatisation sur l'enfant, son état de santé et le risque de devenir diabétique, d'avoir des maladies cardiovasculaires à l'âge adulte ou de l'avoir un peu plus tôt qui constitue les défis auxquels on est confronté.
Mais on sait qu'en Afrique, avoir des rondeurs, avoir un ventre administratif, comme on dit, c'est plutôt bien perçu. C'est le signe que l'on mange à sa faim, que l'on a les moyens. Est-ce que finalement, cette grille de lecture plutôt positive est un frein au dépistage et à la prise en charge de l'obésité infantile?
Tout à fait, c'est un frein à la prise en charge de l'obésité infantile. Effectivement, très peu de personnes viennent consulter pour l'obésité d'un enfant. Ils estiment qu'il est en train de grandir ou que c'est les parents qui sont bien nantis, qui s'occupent bien de lui. C'est quand l'obésité devient vraiment morbide, à ce moment-là qu'ils ont recours au personnel de santé pour pouvoir prendre en charge cet enfant-là. Et quand l'obésité devient stigmatisante pour l'enfant à l'école, c'est à cette seule condition-là qu'ils ont recours aux soins et demandent de l'assistance pour pouvoir gérer l'obésité de l'enfant. Parce que, en général, il n'y a pas de recours aux soins.
Parce que les parents ne comprennent pas qu'il s'agit d'un problème de santé, finalement, c'est ça?
En général, non. C'est un problème d'aisance. Et puis, il va grandir. Ça lui permet de bien grandir. Très peu le perçoit ainsi. Surtout en milieu rural, ce n'est pas du tout perçu. Voilà. Et comme dans le milieu urbain, les parents sont de plus en plus absents. Les enfants sont confrontés à une alimentation un peu obésogène, les confiseries, les biscuits et tout le reste, les alimentations, les aliments de restauration rapide. Alors, ils sont là devant la télé, ils bougent très peu, l'obésité survient, les parents n'y pensent pas vraiment. Et quand il n'y a pas un problème de santé qui survient, ils n'y pensent pas vraiment. Alors, c'est pour cela qu'il faut sensibiliser.
Et justement, il y a des grandes campagnes de sensibilisation. C'est quelque chose dont les pouvoirs publics se sont emparés ou pas encore?
Non, justement, puisque ce n'est pas un réel problème de santé publique, les pouvoirs publics ne s'en sont pas.
Oui, mais c'est en train d'exploser, c'est ça? Il faut peut-être prévoir ça à l'avenir.
C'est pour ça, lors des consultations des enfants sains, dès qu'on les prend en charge depuis leur naissance, qu'on fait les peser, ils viennent en consultation, même d'enfants malades, on essaie de les sensibiliser pour leur alimentation. Mais c'est pas un problème réel encore pour le gouvernement, et pour nos pays d'ailleurs, puisque la politique actuelle de santé nutritionnelle n'a pas prévu une grosse prise en charge pour l'obésité infantile. Mais c'est de suivre l'enfant dans son alimentation chaque fois qu'il a recours aux soins, de façon à ce qu'il ait accès à des conseils adéquats pour son alimentation et pour l'activité physique pour pouvoir maintenir un poids santé. Mais il n'y a pas de politique spéciale pour prendre en charge ou prévenir l'obésité chez l'enfant.
Mais est-ce à dire que la prise en charge est inexistante ou qu'elle est limitée? Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire face à l'obésité d'un enfant?
La prise en charge n'est pas inexistante. La preuve, j'en reçois et je prends en charge. Donc, si un enfant, des parents font recours aux soins, on les prend en charge et on essaie de régler le problème de poids de l'enfant. C'est les sensibilisations grand public, une politique de santé spécifique à l'obésité infantile qui n'est pas tellement factuelle, puisque justement, il y a des problèmes plus graves, il y a d'autres priorités dans le pays.
Bien sûr. Docteur Azangeme, pour finir, est-ce que vous avez des conseils nutritionnels à donner à nos auditeurs qui vous écoutent et qui seront sûrement ravis d'en avoir des conseils?
Bien sûr, les conseils nutritionnels les plus importants, c'est de savoir qu'un enfant, dès sa naissance, a une alimentation adéquate, une alimentation qui lui convient. Et pour nous, le programme le plus simple, c'est l'allaitement maternel exclusif à la naissance jusqu'à 6 mois. Une alimentation de complément adéquat, et pour le jeune enfant, son alimentation doit être basée sur beaucoup de légumes, des fruits, des céréales complètes, des noix. Pas d'aliments de restauration rapide ou vraiment au hasard. Les confiseries, les biscuits, le sucre ajouté doivent être absolument réduits et les matières grasses aussi réduites de l'alimentation de l'enfant. On ne peut pas céder à tous les caprices. Il faut laisser grandir les enfants de façon harmonieuse et s'arranger à ce qu'ils ne mangent pas devant l'écran de télévision et pouvoir faire de l'activité physique autant que possible. Au moins 1 heure par jour pour un enfant. Et voilà un peu ce que je peux conseiller. Et s'il y a des problèmes, il faut consulter pour qu'on ait une prise en charge à la fois nutritionnelle, clinique, sur le plan général et psychologique pour accompagner cet enfant-là.
Bon, eh bien écoutez, j'espère que nos auditeurs ont bien pris note. Merci infiniment, docteur Colette Azan-Djemé. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste au CHU de la mère et de l'enfant Lagune à Cotonou, enseignante chercheur à l'Institut régional de santé publique à Ouida, au Bénin. Bonne journée à vous.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Clara Kipnis, vous êtes toujours avec nous. On va passer aux questions de nos auditeurs. Nous sommes avec un premier auditeur qui nous appelle de Côte d'Ivoire. C'est Yves Didier. Yves Didier, bonjour.
Bonjour, docteur.
Alors, moi, bonjour. Je ne suis pas le docteur. Ah oui, le docteur vous entend, pardon.
Ok.
J'allais transmettre. Quelle est votre question, Yves Didier?
Bon, une question. J'ai une préoccupation. J'ai ma fille de 8 ans. Allô?
Oui, nous vous écoutons.
Ok, j'ai ma fille de 8 ans, elle fait 60 kilos pour 1m33. Et là, je trouve qu'elle est obèse, je suis un peu inquiet. Je suis en train de trouver des voies et moyens pour qu'elle maigrisse, mais sans pouvoir la frustrer. Donc là, je suis dans un dilemme. Donc, je suis en train de voir comment la mettre aux fruits et légumes. Et puis trouver peut-être un vélo pour faire un peu de sport. Mais sinon, elle-même, elle se sent bien dans sa peau, elle n'a aucun souci, mais c'est moi qui suis un peu inquiet. Et puis souvent, quand on a la visite des parents, ils se plaignent, « Ah, oh, mais ton enfant, il est obèse, il faut faire ceci. » Voilà un peu ma préoccupation.
Et votre femme, la mère de l'enfant, partage ce sentiment ou pas?
Bon, elle, vous connaissez les femmes, elles sont beaucoup plus... je sais pas, maternelles, elle ne partage pas ce sentiment du tout. Je crois que même... l'objet de quelques conflits quelquefois, parce que quand elle va au supermarché, tout ce qui est confiserie, tout ce qui est charcuterie, elle en achète.
D'accord, donc une divergence de point de vue sur le cadre de votre fille. Eh bien, je cède la parole au docteur Clara Kipnis. Qu'est-ce qu'on peut dire à Yves Didier, docteur Clara Kipnis?
Oui, bonjour. Alors, effectivement, quand on calcule l'indice de masse corporelle de votre fille, il est à 33,9 kg par mètre carré. Donc, chez les enfants, comme je vous ai expliqué, c'est pas les mêmes normes que chez les adultes. Et donc, quand on le reporte sur la courbe d'indice de masse corporelle, on voit que votre fille, elle a effectivement un équivalent adulte très au-delà de 40 kg par mètre carré, c'est-à-dire une obésité très massive, donc aussi qu'on appelle morbide, mais on va dire massive. Donc, elle a une obésité qui est quand même très sévère pour son âge, puisqu'à cet âge-là, normalement, on considère qu'on est à l'équilibre staturo-pondéral entre 13 et 18,5 de d'IMC. Donc, moi, ce que je vous conseille avant tout, c'est déjà de consulter un médecin, donc si possible un pédiatre ou un endocrinopédiatre. Je ne sais pas si il y a des gens disponibles dans votre entourage, mais en tout cas, c'est important de vérifier d'une part qu'il n'y a pas de maladie sous-jacente qui explique l'obésité, qu'il s'agit bien d'une obésité commune, donc sans maladie sous-jacente, de vérifier qu'il n'y a pas de complications, donc on l'a dit, diabète, excès de cholestérol, hypertension, triglycérides, tout ça, et puis surtout de vous aider dans la prise en charge. Et comme vous dites, cette prise en charge, c'est très important qu'elle implique également la maman. Il faut qu'on explique, qu'on montre les courbes à la maman et à votre fille aussi, puisqu'elle est en âge tout à fait de comprendre. Et il faut qu'on implique un petit peu toute la famille dans la prise en charge de votre fille, puisque comme vous le dites très bien, si c'est la maman qui fait des courses et qui achète plein de gâteaux, plein de chips, plein de bonbons, ben, ça va pas aider votre fille. Donc déjà, il faudrait essayer de diminuer, voire d'arrêter complètement l'achat de ces aliments, en tout cas au moins de diminuer fortement l'achat de ces aliments pour pas qu'elle ait la tentation à la maison d'en manger, votre fille. Et donc pour ça, il faut vraiment que, à mon avis, un médecin l'évalue et une diététicienne nutritionniste puisse vous donner des conseils vraiment personnalisés, adaptés à vous et à la maman et à votre fille pour essayer d'améliorer l'alimentation de votre fille. Il faut vraiment pas faire de régime strict, mais juste avoir une alimentation, comme je le disais, équilibrée. Les choses basiques, hein, 5 fruits et légumes par jour, un produit laitier par repas, donc 3 à 4 fois par jour, de la viande ou du poisson ou des œufs 1 à 2 fois par jour. Donc c'est vraiment des conseils simples mais très personnalisés, très adaptés qu'on pourra vous donner. Donc je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à vous faire accompagner et surtout ne pas interdire complètement des aliments plaisir pour pas qu'il y ait de frustration, puisque vous dites bien que vous voulez pas frustrer votre fille, vous avez tout à fait raison. Il faut que ça reste un plaisir, mais quand même essayer de modifier un petit peu son style de vie et puis lui faire faire de l'activité physique au moins une heure par jour.
Yves Didier, êtes-vous satisfait de la réponse ?
Oui, merci beaucoup, c'est bien. Merci docteur, merci à Priorité Santé.
Mais de rien, vous êtes la bienvenue. Est-ce que vous avez la possibilité de faire des repas variés à la maison, Yves Didier, d'alterner poisson, viande, légumes, comme le préconisait le docteur Clara Kipnis ?
Si, on a la possibilité.
Bon, on ne reste plus qu'à convaincre la maman, du coup.
Bien sûr.
Bon, mais écoutez, merci.
Vous êtes pas méchant, hein, monsieur, d'accord ? C'est vraiment pour le bien de votre fille, c'est pour l'aider, pour éviter qu'il y ait des complications liées à l'obésité. Donc, c'est pas de la méchanceté et il faut pas céder. Voilà, il faut vous faire aider.
J'ai compris.
Et vous avez eu bien raison de nous appeler. Merci beaucoup, Yves Didier. Très bonne journée à vous. Et puis, bon courage pour la suite. Merci, au revoir.
Au revoir.
On passe au docteur Kipnis. Vous savez, nos auditeurs sont ravis de vous avoir. On a une autre question qui nous a été laissée par une note vocale. On retourne au Bénin avec Fabrice.
Bonjour RFI, bonjour Igor. Bonjour. Je m'appelle Fabrice Arangay, je vous appelle depuis Cotonou, au Bénin. J'ai un cousin qui est en surpoids, il âgé de 6 ans. Je voudrais vous demander si je peux lui faire l'abdo, le sport bien sûr, et lui assurer le régime alimentaire comme un adulte. C'est ma préoccupation. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Alors, docteur Kipnis, un régime alimentaire comme un adulte pour un enfant de 6 ans, je crois que j'ai une idée de votre réponse.
Voilà, donc effectivement, on fait pas. Alors, il y a plusieurs aspects dans cette question. Régime alimentaire, si on sous-entend régime restrictif hypocalorique, ça on a déjà dit, non chez l'enfant, d'accord ? Il faut vraiment une alimentation normocalorique, donc qui apporte suffisamment de nutriments à l'enfant pour qu'il puisse assurer normalement sa croissance. Donc pas de régime restrictif et évidemment pas le même régime qu'un adulte, puisque chaque enfant a des besoins adaptés en fonction de son âge. Donc pour ça, en tout cas en France, on a le PNNS, donc le Programme National Nutrition Santé, qui est bien fait, qui est visible sur Internet et qui est adapté à chaque tranche d'âge et qui permet d'avoir des repères nutritionnels pour chaque tranche d'âge. Donc ça, c'est important de dire ça. Et d'autre part, par rapport aux abdominaux, donc il faut effectivement favoriser l'activité physique. Donc comme j'ai dit, au moins une heure par jour d'activité physique modérée à intense, mais pas forcément que des abdominaux. Hein. C'est pas les abdominaux en soi qui vont être la seule clé pour maigrir. Mais marcher, faire du vélo, la piscine, des sports collectifs, ce qui ferait plaisir à l'enfant. Il faut que ça reste un plaisir pour qu'il n'y ait pas de frustration et que du coup ça puisse durer sur le long terme.
Merci infiniment, docteur Clara Kipnis, d'avoir répondu à mes questions et aux questions de nos auditeurs. Ce fut un plaisir de vous avoir. Vous reviendrez ?
Merci, oui, merci à vous. Alors, je peux rajouter un petit truc ou pas ?
Alors, en deux secondes.
C'est important de la prévention. Donc, à chaque consultation médicale, il faut mesurer l'indice de masse corporelle pour dépister l'obésité.
C'est noté. Merci infiniment. Très bonne journée à vous. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission préparée par Assetou Samaki et Ophélie Lassène. À la technique et à la réalisation, c'était Didier Bleu comme d'habitude. Demain, nous parlerons des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur la lutte contre le VIH-SIDA. Bonne journée à tous et surtout, prenez soin de vous.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Sunwa Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunwa Assurance. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.